que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Et dans ce passage, on voit que Paul donc parle aux frères et sœurs de Thessalonique. Et comme il salue au premier chapitre, il dit à l'église de Thessalonique. Donc il s'adresse à l'église. Et donc ici, on s'adresse à l'église, on s'adresse aux frères et sœurs, donc on s'adresse à nous-mêmes. Et il dit à ceux qui ont appris comment il faut se conduire et comment plaire à Dieu. Et c'est ce qu'ils font déjà, et il l'encourage, donc du coup, il dit, c'est ce que vous faites déjà, mais je vous encourage à progresser encore. Donc ils sont dans la connaissance, et ils ont reçu les instructions qui viennent de la part de Jésus-Christ lui-même, au travers des apôtres qui les ont relégués. Mais ce que le Seigneur veut, c'est notre progression dans la sainteté. Et donc, si on prend 2 Thessaloniciens cette fois-ci au verset 1 et 3, donc 1 au verset 3 et 4, je crois, c'est ça, oui. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. Et je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce que c'est ce qu'on peut dire de moi-même? Est-ce que je suis un sujet de reconnaissance pour les frères et sœurs? Est-ce que les frères et sœurs peuvent adresser des prières à Dieu en disant, Seigneur Jésus, merci pour la foi grandissante de ce frère. Merci pour ce frère qui progresse en amour, qui progresse dans la connaissance de ta parole. Eh bien, écoutez, je l'espère et je le crois. Et même si on rencontre des difficultés, eh bien, si je reste attaché à Dieu, si je m'instruis de sa parole, si je cherche à lui plaire, alors forcément des progrès vont s'opérer dans ma vie de foi et dans ma vie en général. Et je vais toujours continuer à progresser comme m'invite à faire l'apôtre Paul. Et donc du coup, c'est pour ça que je faisais le lien avec la colonie, parce qu'en fait, des fois, quand on est engagé dans une œuvre comme ça, des fois, eh bien, il y a des moments où est-ce qu'on a un peu moins de progrès dans une œuvre, où est-ce que ben, on a des périodes qui sont un peu stagnantes, tout ça et tout. Et on l'a vu aussi avec la colonie, on avait un peu moins d'enfants, tout ça et tout. Mais malgré tout, l'œuvre, elle continue. Le Seigneur continue d'agir dans son œuvre, il continue à faire progresser son œuvre. Et là, on le voit aussi qu'il y a des progrès, vu qu'il y a des liens avec d'autres églises, qu'il y a des nouveaux enfants qui viennent, et que du coup, ben, l'œuvre continue, et elle va continuer à grandir, et elle va progresser, nous le croyons. Et c'est le Seigneur qui est à la tête de cette œuvre, et donc du coup, forcément, il y aura des progrès. Mais donc du coup, dans ma vie aussi, j'ai fait le parallèle avec ma vie, et des fois, c'est vrai que je me dis, eh bien, c'est pareil, dans notre vie, on a des moments de progrès, on a des moments où on stagne, on a des moments où on rechute un petit peu, etc., où on a des difficultés, mais est-ce qu'on peut dire d'une manière générale, est-ce que ma vie progresse? Est-ce que des frères et sœurs peuvent être reconnaissants que ma foi soit grandissante, que mon amour grandisse? Et même si, bien sûr, la foi est une échelle qui grandit, qui homme, mais elle doit continuer d'être en progrès malgré tout. Et pour que ça arrive, Paul il dit encore quelque chose à Timothée. Il dit ça dans 1 Timothée 4, verset 15. Il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Et donc, ces choses dont il parle là ici, c'est, on le voit dans le début des chapitres, etc. En fait, il parle de s'exercer à la piété, de transmettre les instructions, d'enseigner, de rester fidèle à la parole. Et si on fait toutes ces choses, forcément des progrès vont opérer dans notre vie et dans les œuvres qu'on va mettre en place pour le Seigneur, que le Seigneur va faire lui-même progresser. Et si on reste fidèle à la parole de Dieu, Dieu lui-même est fidèle pour faire progresser les choses. Alors c'était un petit peu mon message de ce matin, simplement le mot « progrès ». Et comme Paul encourage les Thessaloniciens, « progresser encore ». Voilà, continuer d'avancer, continuer de progresser. Le Seigneur est là et il veut nous faire progresser dans la sainteté. Et on le voit dans nos vies aussi, le Seigneur nous fait progresser. Et même si parfois les choses sont plus difficiles que d'autres, eh bien il faut continuer parce qu'on a un progrès qui est quand même constant.
Eh bien, j'avais mis en route l'enregistrement puisque les quelques versets que notre frère a commencé de lire, vont dans le... On peut dire sans doute plutôt la suite de ce que je voulais apporter. Donc, c'est très bien. Ça fera un ensemble. Et puis, nous poursuivrons, j'espère, par la grâce de Dieu, dans les semaines à venir sur ce thème qui m'a été, en fait, inspiré tout simplement déjà du fait que j'avais dit avant les congés que c'était l'été, mais que l'œuvre de Dieu se poursuivait pendant l'été et que le Seigneur pouvait produire de belles choses, des conversions et même un réveil pendant l'été. Or, j'ai reçu donc par mail un frère qui me transmet une revue qui s'appelle Shalom Israël, et dedans il y avait un renvoi à un PDF qui met en évidence le réveil de la Drôme il y a maintenant plus d'une centaine d'années. Il y a eu un réveil donc dans la Drôme, le département de la Drôme, dans le contexte des églises protestantes officielles, mais qui ensuite s'est étendue. Et pendant une dizaine d'années, il y a eu une œuvre très particulière de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Mais ce qui est caractéristique, c'est que justement, ce réveil a éclaté en plein été. Bon, il a été précédé par une prise de conscience des pasteurs qui ont vu l'état de délabrement de l'Église à ce moment-là. Et ça s'est passé de cette façon-là. Donc les pasteurs se sont mis à prier. La réponse ne se fit pas attendre. Le lendemain, dans la petite annexe d'Establet, un petit village qui compte aujourd'hui 21 habitants, au cours du culte, une femme se lève pendant la prédication et fait signe au pasteur qu'elle désire parler. En tremblant, elle se tourne vers les quelques personnes présentes et elle leur dit timidement « Vous me connaissez, jusqu'à présent j'ai vécu pour mon troupeau de chèvres, ma ferme et mes picodons. Mais maintenant j'ai compris. Dieu ne se contente pas de ce que je suis. Désormais, je veux vivre pour lui. » Et elle se rassoit en pleurant. Ému comme le reste de l'auditoire, le pasteur essaie de faire chanter un cantique, mais l'émotion est trop forte. Il fait alors un appel. Quelques personnes y répondent. Le soir même, au culte du chef-lieu, la Motte Chalençon, Victor Bordigoni raconte ce qui s'est passé l'après-midi à Establette et fait de nouveau un appel à se donner à Jésus-Christ. Quelques personnes y répondent. Le réveil était né. Ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle le mouvement se répandit. Ce fut pendant 5 semaines une vague puissante qui passa sur ces montagnes depuis longtemps plongées dans les ténèbres d'un formalisme mortel. Une centaine d'âmes firent acte de conversion. Ce qui peut être encore plus frappant, c'est qu'on était en plein mois d'août 1922, c'est-à-dire en pleine moisson des lavandes. Vous voyez, même pas encore 100 ans. En pleine moisson des lavandes. Le temps de l'année où les paysans levés à l'aube et couchés à la nuit sont le plus occupés et le plus fatigués. Pourtant, en quelques semaines, non seulement ils reprirent le chemin du temple, mais émus par leur délabrement, ils se mirent à les réparer. Malgré les travaux d'été, les paroissiens se mirent à l'ouvrage, apportant le sable, le bois, les pierres. On reblanchit les murs, on lava les sols, on cira les bancs au temple de Chalençon. Alors que le travail s'achevait, un des hommes qui était là dit « Il manque quelque chose ». Trempant un pinceau dans un pot de peinture, il écrivit en grandes lettres claires « Gloire à Dieu ». Jean Cadier, qui rappelle cette anecdote, ajoute « C'est à ces gestes qu'on voit la sincérité d'un mouvement. » Voilà donc ce qui s'est produit en plein mois d'août, il y a une centaine d'années. Un réveil par la prise de conscience que les personnes ne vivaient pas selon les promesses de l'Évangile. Donc, nous cherchons bien la vie nouvelle par un réveil de l'âme. Et il y a un préalable pour cela, parce que les hommes, bien sûr, ont beaucoup de façons de chercher une vie nouvelle, hein. Régulièrement, on entend les personnes qui désirent une vie nouvelle dans ce monde, les gens de cette société. Soit elles veulent changer de vie pour elles-mêmes, soit elles veulent changer la vie, carrément changer la société. Eh bien, l'Évangile c'est la vie nouvelle qui commence par la repentance. C'est bien sûr les deux figures initiales ou les deux prophètes incontournables, indissociables hein, du début de l'évangile, c'est-à-dire Jean et Jésus. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, qui est très concis, eh bien, on a tout de suite Jean qui apparaît, au verset 4, « Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. » Tandis que Jésus apparaît au verset 14, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le royaume de Dieu est proche. Lorsque nous chantons un chant comme Vision 2001, nous ne faisons rien d'autre que d'annoncer le royaume de Dieu. C'est bien sûr cela qui nous porte. Nous annonçons le royaume de Dieu et nous espérons le voir se manifester dans au sein de notre nation, bien que le royaume de Dieu soit bien sûr au-delà des nations et au-delà de ce qu'on peut réaliser sur cette terre. Mais donc au départ, il y a la repentance, le baptême de repentance que Jésus reprend puisqu'il dit « repentez-vous ». La repentance, c'est un changement dans les pensées qui remet en cause, on peut dire, les prémices de la vie. Pourquoi est-ce que l'on vit ? Et en partant de là, eh bien, remet en cause le mode de vie. Jean a été très sévère au début de sa prédication puisque, si on prend dans Luc le même contexte, au chapitre 3, versets 7 à 14, eh bien, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voilà comment Jean... Je continue, parce que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondait, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Voilà. Jean amener les personnes à réfléchir à leur vie et à désirer de vrais changements dans leur comportement, dans leur mode de vie, dans leur façon d'agir. Ce sont donc des fruits produisés, des fruits dignes de la repentance, et Jean les conseillait pour que ces nouveaux fruits se manifestent dans leur vie. Et donc le peuple a été saisi et a mis en œuvre les conseils de Jean. Il a changé ses façons de faire. Et cela allait avec le fait que le baptême de repentance était accompagné de la confession des péchés. Hein, tous les habitants, au chapitre, si je reviens à Marc, tous les habitants de Judée et tous les habitants de Jérusalem, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc il y avait une réelle volonté de changement. C'était toute la vie qui était replacée devant Dieu. Mais il est difficile de changer ses pensées lorsqu'on pense avoir une vie conforme. Et ces mêmes paroles qui sont ici données, attribuées à toute la foule, hein, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous produisez des fruits dignes de la repentance. Eh bien, Jean l'adresse plus spécifiquement aux pharisiens et sadducéens dans l'évangile de Matthieu. Ce n'est pas seulement à la foule, mais ce sont les pharisiens et les sadducéens qui sont concernés, chapitre 3 toujours, mais de Matthieu maintenant, versets 7 à 9. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » C'est donc pratiquement les mêmes paroles, mais dans Luc, ils sont destinés, en tout cas ils sont rapportés comme étant destinés à l'ensemble de la foule, tandis que dans Matthieu, ils sont destinés plus spécialement aux pharisiens et aux sadducéens, aux hommes religieux. Mais le langage est très légèrement différent, dans le sens où à la foule, Jean dit « produisez donc des fruits dignes de la repentance », tandis que je remarque que dans Matthieu, aux sadducéens, c'est « produisez donc du fruit digne de la repentance ». Est-ce que cette nuance est importante ? Des fruits, du fruit. Je pense que ce n'est pas par hasard qu'il y a cette distinction dans les deux passages. Parce que les hommes religieux avaient une conduite extérieure conforme aux préceptes divins. Et pourtant, le fruit qu'ils portaient n'était pas bon. Le fruit pour Dieu, le fruit attendu de Dieu, ce fruit-là n'était pas bon. Et on peut ainsi comprendre que le domaine concerné par la repentance est premièrement spirituel. Il conduit à discerner ce qui est propre au royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement la vie religieuse, la vie morale, la vie sociale qui est en jeu. C'est ce qui est le royaume de Dieu, ce qui reflète la vérité divine, la justice éternelle et qui donne la vie véritable. Or, les pharisiens, les hommes religieux en étaient dépourvus. Ils n'avaient pas le fruit pour Dieu, le fruit spirituel. Ils ne comprenaient pas la pensée de Dieu. Les pharisiens et sadducéens n'étaient pas repentants. Ce qui ne leur a pas permis de recevoir le ministère de Jésus. Là où la foule était reprise et demandait pardon de ses péchés et demandait conseil pour une vie nouvelle, les pharisiens, eux, faisaient au contraire marche arrière, résistaient et ne se faisaient pas baptiser. C'est ce qui apparaît dans l'évangile de Luc encore, au chapitre 7, versets 29 à 30. C'est Jésus qui parle. Et il dit, et tout le peuple qui a entendu Jean, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Vous voyez, les pharisiens et sadducéens, ils venaient eux aussi, comme la foule, pour être baptisé par Jean, car Jean était un prophète. Ceci dit, il a prêché dans le désert, et ça me fait penser que justement, le message du salut peut être vraiment prêché en plein été, lors de la sécheresse, lors des temps où il n'y a pas des difficultés pour la vie de se manifester, et le Seigneur peut, dans ces moments-là, apporter sa parole de vie par la prédication de la repentance. Mais voilà, les pharisiens n'ont pas reçu le message de la véritable repentance. Ils ne sont pas venus pour être... Enfin, si, ils sont venus pour être baptisés, mais en entendant les paroles de Jean, ils ont fait demi-tour. Tandis que la foule, le peuple, lui, il a accepté ce message. Mais bien entendu, avant toute cette prise de conscience et les démarches nécessaires pour une vie nouvelle, c'est-à-dire la confession des péchés, le baptême, les fruits nouveaux, il y a à la racine de tout la volonté de Dieu de pardonner les péchés. Le baptême de repentance pour le pardon des péchés. C'est-à-dire vraiment la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que Jean a été envoyé. Jean ne s'est pas institué lui-même prédicateur de la repentance. C'est Dieu qui l'a envoyé prêcher la repentance et baptiser les personnes. Et c'est pour cela que Jésus a paru. Lorsqu'il dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Et cette bonne nouvelle, c'est le pardon des péchés que Dieu a décidé d'accorder. Dieu veut pardonner les péchés. Et pour amener le pardon des péchés, il indique le chemin de la repentance, le baptême, la foi en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, le pardon de Dieu est accordé. Parce que le but, c'est Dieu qui l'a en lui-même de pardonner les péchés des hommes. Mais il y a un chemin à suivre pour que ce pardon de Dieu, qui est dans le cœur de Dieu, puisse être réalisé, manifesté. Il n'y a pas de vie nouvelle avec une mauvaise conscience qui resterait en nous. Il faut que notre conscience soit purifiée et que le péché soit effacé. Dans Actes, cela apparaît bien à deux reprises, au chapitre 11, verset 18, alors qu'il y a des contestations au sujet de la manière dont Pierre est allé prêcher l'évangile à Corneille et sa famille. Eh bien, Pierre rapporte les faits, et après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Oui, Dieu a accordé la repentance aux païens. Dieu a envoyé son serviteur vers Corneille pour que les païens connaissent la repentance parce que Dieu avait décidé de pardonner aux païens. Et chapitre 14, verset 27, à leur arrivée, après une tournée missionnaire, les apôtres donc convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Oui, c'est Dieu, encore une fois, qui a ouvert aux païens, aux nations, la porte de la foi et qui leur a accordé la repentance. La purification des péchés permet la vie nouvelle. Et malheureusement, les religieux ne se voyaient pas comme pécheurs, donc ils n'ont pas saisi le pardon, et ils n'ont pas saisi la grâce, et ils n'ont pas saisi l'œuvre de Christ. Mais comme Jésus a commencé par prêcher la repentance dans la foi en la bonne nouvelle, eh bien, ses apôtres l'ont fait après lui. Et Paul, chapitre 26 des Actes, verset 20, peut résumer son ministère de cette façon. À partir de verset 19, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, car encore une fois, c'est Dieu qui a choisi cet homme et qui l'a envoyé vers les nations, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Ici, C'est le même schéma, mais je pense que nous sommes un peu plus loin, puisque ce ne sont plus les fruits, ou ce n'est plus le fruit, mais les œuvres dignes de la repentance, qui suivent cette repentance. Alors, est-ce que c'est une équivalence? Est-ce qu'on peut dire, oui, le fruit, c'est égal aux œuvres? Ou est-ce que c'est plutôt l'étape suivante? C'est comme si le premier fruit de la repentance a été porté. Les chrétiens, en s'étant repentis et convertis à Dieu, et je dis bien convertis à Dieu, c'est Paul qui le dit, ils ne sont pas convertis à une organisation ou à un système, ils se sont convertis à Dieu. Les chrétiens, en s'étant repentis et convertis à Dieu, ont produit le fruit pour Dieu. Jésus dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ils se sont repentis, ils ont cru à la bonne nouvelle. Ils ne se confient plus en eux-mêmes pour leur salut, mais ils reconnaissent les vertus de l'œuvre du Christ. Maintenant, leur foi est placée en Jésus. Donc, ils ont porté le fruit. Toutefois, il y a une suite, une concrétisation dans les divers engagements de la vie. Comme pour ceux du peuple, du temps de Jean, lorsqu'ils se repentaient, ils demandaient le conseil comment vivre une vie nouvelle, comment avoir des œuvres nouvelles. Eh bien, Paul nous dit que notre repentance, notre conversion à Dieu est suivie par des œuvres dignes de la repentance. Oui, il y a une suite, nos œuvres deviennent marquées par la nouvelle orientation qu'a prise notre esprit. Maintenant, nous ne sommes plus portés vers ce qui nous motivait avant, nous sommes portés vers ce qui est propre à la justice et au royaume de Dieu. Nous cherchons ce qui est du royaume de Dieu. Alors, une première conclusion aujourd'hui à ce message. Il y avait d'un côté les religieux, d'autre côté les gens du peuple. On peut dire d'une certaine façon les spirituels ou les pragmatiques, ceux qui sont dans la théorie, ceux qui sont dans la vie. Et s'il y a une repentance, que ce soit pour les uns ou pour les autres, ça commence par un mode de pensée qui est vraiment touché, qui est remis en cause. Et de ce fait, le mode de vie est accepté, est affecté. Et la relation à Dieu est changée. Malheureusement, pas pour les religieux qui sont partis, on peut dire, de haut. Ils sont restés dans leur sphère, ils ne sont pas acceptés de remettre en cause ce qu'ils vivaient pour Dieu. Tandis que le peuple, qui lui a compris qu'il était au fond, qu'il était dans le péché, par ses mauvaises œuvres, a plus facilement identifié son besoin de pardon et est venu, a reçu le pardon et ensuite a changé par la grâce de Dieu, par l'enseignement des apôtres, par l'action du Saint-Esprit, a véritablement changé de vie, ce qui a donné les églises. Et quand nous disons que nous convertissons à Dieu et non pas à une institution ou à une structure ou à une organisation, cela n'empêche que nous convertissons à Dieu dans le cadre et dans le sein de son Église, qui n'est pas un organisme humain, mais qui est le corps de Christ, qui est un organisme spirituel, et le Seigneur joignait chaque jour à son Église ceux qui étaient sauvés. Donc retenons cela, et puis entamons cette vie de progrès dans la foi et la repentance à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Amen.